Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous. 20 000 personnes au moins rassemblées hier devant le palais de justice de Paris pour rendre un hommage à Adama Traoré, 4 ans après sa mort. C'est beaucoup, surtout pour un rassemblement qui avait été interdit par la préfecture. Le jeune homme est décédé en 2016 lors de son interpellation. La famille est persuadée qu'il est mort asphyxié, plaqué au sol par les gendarmes, pourtant mis hors de cause dans le dossier. Et depuis, c'est à coup d'expertise contradictoire que les deux camps s'opposent. Hier, la manifestation avait démarré dans le calme, en début de soirée, avant de dégénérer au moment de sa dispersion, des débordements dont a été témoin cette habitante.
Ah ben c'est le chaos total, c'est incroyable, regardez tout ça, regardez les vélos incendiés, il y avait beaucoup de CRS, bon, moi j'étais sûre que ça allait dégénérer comme ça. C'était tout à fait pacifique et d'un seul coup il y a eu les gaz lacrymogènes et après ça a été la panique complète. Du bruit, des fumées, tout de suite il y a eu des feux partout, des cris, enfin et des gens qui sont réfugiés chez nous, etc. Il y a plein de gens qui sont tombés, évanouis, on en a une qui était pareil, évanouie dans la maison, enfin voilà. Quoi.
La dame s'est évanouie dans votre salon?
Oui, il y en a une en fait qui a inhalé trop de gaz et voilà.
Un témoignage recueilli par Mourad Djabari qui couvrait pour RTL ce rassemblement. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Du service police-justice de RTL. On va faire un point avec vous sur ce qui s'est passé. Manifestation interdite, on l'a dit. À l'arrivée, 20 000 personnes et de la casse. Est-ce qu'il n'y a pas eu un raté quelque part ?
Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais non, en termes de maintien de l'ordre pur, le bilan est plutôt positif. Pas de blessés graves recensés ce matin, ni du côté des manifestants, ni du côté des forces de l'ordre. 18 personnes ont été interpellées, mais la casse n'est que matérielle. Vu le contexte, la préfecture de police avait anticipé de possibles débordements. En revanche, ce que les autorités ont sous-estimé, c'est le nombre de participants. Avant-hier encore, une note faisait état de 1 000 à 2 000 manifestants prévus. Un chiffre rehaussé à 5 000 hier après-midi. Au final, 20 000 participants sont venus braver l'interdiction du préfet. Une interdiction presque symbolique, impossible de verbaliser tout le monde sur la base d'un regroupement de plus de 10 personnes. Mais une interdiction qui permettra de poursuivre les organisateurs en justice si les autorités le souhaitent.
Merci Guillaume Chiez pour cet éclairage nécessaire.
Et sur RTL ce matin, l'avocat Ari Halimi affirme que c'est le préfet de police lui-même qui organise ces débordements par ses décisions.
Alors certains seraient tentés de faire un parallèle avec la situation aux États-Unis, la mort de George Floyd, afro-américain victime d'un policier blanc. Et d'ailleurs, depuis plusieurs jours, les appels à manifester en France se multiplient de la part de certains responsables politiques, des inconscients, selon Yves Lefebvre du syndicat Unité SGP Police.
Ce qui était prévisible est arrivé, malheureusement et tout simplement. C'est certainement pas la famille d'Amara Traoré qui a appelé à manifester ce soir pour des raisons qui lui sont propres et qu'on peut écouter, mais ce sont ceux qui alimentent sur les réseaux sociaux ou qui alimentent sur des plateaux télé, qui se servent de leur notoriété pour aujourd'hui enflammer les banlieues. Mais ces gens-là, ils viendront jamais mettre leurs fesses dans une banlieue. Et c'est certainement pas eux qui viendront affronter des hordes de gens qui viennent, pour une partie, défendre ou manifester pour la mémoire d'Amara Traoré, et d'autres pour piller, et d'autres pour tuer du flic.
Ce qui alimente le débat pour enflammer les banlieues, allusion peut-être à Jean-Luc Mélenchon qui ne cache pas son plaisir après le soulèvement aux États-Unis. Hourra, le peuple est en ébullition, écrit sur son blog le leader de la France Insoumise, pour qui une situation identique pourrait bien survenir chez nous. Aux États-Unis, justement, c'est la nuit, c'est plutôt calme pour l'instant. New York prolonge le couvre-feu jusqu'à dimanche après les émeutes et les pillages du début de semaine en plein cœur de Manhattan. Le maire refuse pour le moment de faire appel à la garde nationale comme l'avait réclamé Donald Trump.
Voilà qui tombe bien au moment où il est urgent de relancer l'économie. Un parc éolien géant à Fécamp et en plus c'est de l'énergie propre. C'est peut-être ça le monde d'après. En tout cas, on y revient dans un tout petit moment sur RTL. Restez avec nous.
MMA, interruption spéciale.
Benoît, vous êtes avec un automobiliste qui n'a pas roulé depuis longtemps.
Oui, en effet. Avec les événements récents, il a dû s'adapter.
Oui, mais son assurance auto, elle, ne s'est pas vraiment adaptée.
Au contraire, avec MMA, il ajuste son assurance auto au nombre de kilomètres qu'il pense parcourir dans l'année. Et s'il roule moins, les kilomètres non roulés sont des kilomètres remboursés. Zéro tracas.
Et zéro blabla, envoyez la pub.
MMA. Conditions en agence et sur MMA.fr.
Faire confiance aux éleveurs bleu-blanc-cœur, c'est consommer des aliments respectueux de la terre, des animaux et des hommes. Jean-Pierre, éleveur bleu-blanc-cœur en Bretagne depuis 20 ans, nous parle de son engagement pour l'environnement.
Mes 40 vaches mangent de l'herbe, du lin, de la luzerne ou de la févrole. Ces plantes sont bonnes pour l'environnement. Chaque année, dans mon seul élevage, c'est comme si j'avais économisé 130 000 km en voiture. Grâce à Bleu Blanc Cœur, je mesure l'impact de mon engagement pour le climat et en plus, c'est reconnu par les Nations Unies.
Vous aussi, engagez-vous en consommant les aliments Bleu Blanc Cœur.
Souvenez-vous quand vous étiez enfant.
Vous vouliez faire du cinéma, devenir astronaute, avoir une Jaguar? Eh bien, ce dernier rêve, il est enfin temps de le réaliser. Pendant les Liberty Days Jaguar jusqu'au 30 juin, profitez de conditions exceptionnelles chez votre concessionnaire Jaguar sur nos véhicules en stock disponibles immédiatement. Avec l'offre Liberty Leasing, roulez maintenant, payé en 2021. LLD sur 37 mois avec un premier prélèvement reporté en janvier 2021 dans le réseau participant sous réserve d'acceptation de votre dossier par Leasys France. Conditions sur jaguar.fr.
RTL Matin.
Il est 8h05, la suite du journal, c'est un investissement colossal, hein, une opportunité en or pour la Normandie.
2 milliards pour créer un parc éolien géant au large de Fécamp, en Seine-Maritime. Même les opposants qui trouvent ça très laid ne pourront pas dire grand-chose. Cet ensemble immense sera installé à plusieurs kilomètres des côtes. Le chantier va démarrer et il s'annonce impressionnant, Eric Vanier.
71 éoliennes disséminées sur 60 km², c'est-à-dire une superficie équivalente à peu près à celle de la ville de Nantes ou les deux tiers de Paris. Elles seront espacées les unes des autres d'un kilomètre dans une zone particulièrement venteuse à 13 km de la côte pour la plus proche, 22 km pour la plus éloignée. Elles surplomberont la mer, plus de 100 mètres au-dessus des vagues, plantées à 30 mètres au fond de l'eau dans d'énormes caissons en béton. Largeur des ailes, des pales qui brasseront l'air 154 mètres, ça permettra de produire 500 mégawatts, ce qui correspond en gros à la puissance d'un demi-réacteur nucléaire, et d'alimenter en électricité 60% des habitants de la Seine-Maritime. C'est une aubaine aussi pour la Normandie en termes d'emploi. Le chantier mobilisera 2400 personnes, dont un millier chez les sous-traitants, en mer et surtout sur terre, dans les sites qui fabriqueront en kit ces éoliennes avant leur assemblage sur zone, dans et au-dessus de l'eau.
Reportage fascinant.
Ouais, les 60% chiffres. Du département alimenté incroyable. Grâce à ce parc éolien. C'est Eric Vanier. La phase 2 du déconfinement est désormais bien entamée. Réouverture des bars et des restaurants. Les places dans les TGV vont toutes être mises en vente et les avions vont progressivement reprendre du service. Mais d'abord, il faut que les pilotes, qui n'ont pas volé pour certains depuis plus de 2 mois, se remettent à jour. Passage obligé par un simulateur de vol. Et c'est plutôt rassurant. Reportage Arnaud Touche.
Et check, briefing.
Confirme.
Setting.
Première check liste pour Alexandre Durand, commandant de bord chez Air France depuis 12 ans. Il n'était pas remonté dans un cockpit depuis.
Moi aussi, puisque le 16 mars a été mon dernier retour du Caire de l'Égypte.
Du coup, le décollage à bord de cet Airbus A350, perché à plusieurs mètres de haut dans un immense hangar, provoque des sensations particulières.
Il me tardait de revenir près des cockpits et dans les avions, de retransporter nos passagers.
Et pour cela, il doit réussir cette séance sous l'œil intransigeant d'Emmanuel Lefebvre, pilote instructeur juste derrière lui.
Grâce à une séance de 2h30 de simulateur, les pilotes ont retrouvé leur plus haut niveau de compétence afin qu'une fois qu'ils retournent en vol, ils assurent le plus haut niveau de sécurité dans les cockpits.
Près de 2000 pilotes doivent passer ici jusqu'à la fin juin et c'est Jean Fernandez, le directeur des opérations aériennes, qui organise les sessions.
L'exigence réglementaire nous impose 3 décollages et 3 atterrissages dans les 3 derniers mois. Nous sommes passés pour cette période à 5 décollages et 5 atterrissages par pilote. Après ce simulateur, on fait en sorte que nos pilotes rejoignent les cockpits dans les 15 jours maximum.
Et pour le commandant de bord, c'était même dès le lendemain, il s'est envolé pour New York.
Voilà, c'est plutôt rassurant d'entendre les pilotes se former au simulateur. C'est un reportage d'Arnaud Touche. Les supporters de la JOCR lui doivent beaucoup. Jean-Claude Hamel, ancien président historique du club, est mort hier à l'âge de 91 ans. C'est lui qui avait fait grimper l'équipe jusque dans l'élite avant de réaliser un doublé coupe championnat de France en 1996. Et c'est aussi lui qui avait fait venir à la JOCR le célèbre Giroud.
Un grand duo du football français. Hein. Le groupe Indochine, lui, fêtera l'an prochain ses 40 ans, mes enfants. Et à cette occasion, le chanteur Nicolas Sarkis sera tout à l'heure l'invité de Laissez-vous tenter.
Le groupe prépare une série d'événements pour célébrer cet anniversaire et notamment une tournée des stades avec des places à des tarifs abordables. C'est en général le cas pour les concerts d'Indochine et même des places gratuites pour les soignants, manière de les remercier. Écoutez Nicolas Sarkis.
C'est une décision qu'on a prise là ces derniers temps. Ouais. Ces gens qui sont un peu sacrifiés pour nous, les privilégiés qui sont restés chez nous, de réserver une centaine de places par concert, de les inviter dans un stade quand on a 60 000 personnes, 100 c'est pas grand chose. Hein. Au lieu d'inviter les 100 notables du coin, comme on fait, et ben on va inviter les gens qui ont travaillé à Bordeaux, dans les hôpitaux, que ça soit à la cantine ou en réanimation.
C'est super. Nicolas Sarkis au micro de Steven Bellery.
On le retrouvera à 9h15 dans la seconde partie de Laissez-vous tenter tout à l'heure. C'était le journal de Dominique Tenza.
À tout à l'heure.
Vous revenez à 9h. Hein. Allez, à 9h. Je compte sur vous. La météo, Louis Baudin.
Oui, avec encore du soleil ce matin, même si on a déjà ici ou là quelques averses, là au nord de l'Île-de-France, dans le centre ou encore du côté des Pyrénées. Et tout ça montre le début de l'instabilité qui va se multiplier au fil des heures. Cet après-midi, le risque d'orage finira par concerner quasiment toutes les régions à un moment ou à un autre. Des orages parfois violents autour des reliefs, des Pyrénées au Massif central ou encore en allant vers les Alpes du Nord et parfois de la grêle. Il y en aura un petit peu moins en bord de mer, près de l'Atlantique, près de la Manche ou encore sur le littoral méditerranéen. Et puis côté température, ça va commencer à baisser. Bon, ça restera encore très doux, hein, 20 à 22 degrés, pas moins près de la Manche, et encore 23 à 27 degrés ailleurs.
Vous me faites juste un tout petit coup de projecteur sur l'Alsace, où nous allons partir dans un instant avec Samuel Goldschmidt.
Eh bien, c'est du grand beau temps en ce moment, et là aussi, on se verra un petit risque d'orage en fin d'après-midi, notamment près des Vosges.
Vous êtes parfait. Merci infiniment, Louis.
RTL Matin. Yves Calvi.
Eh bien justement, on retrouve notre brigade coronavirus et on va se déconfiner ce matin en Alsace, entre les rangs de vignes. Samuel Goldschmidt, bonjour.
Bonjour.
Vous nous emmenez dans un des villages préférés des Français.
Eh oui, bienvenue à Kaisersberg, entre Amerschwihr et Siegolsheim, pas loin de Katzenthal.
Ben voilà.
Vous avez vu comme je vous ai adroitement épargné la prononciation de ces jolis endroits.
C'est bien aimable.
Allez, une petite leçon de langue avec Christophe Bergamini, c'est le directeur de l'Office du Tourisme.
Pour ceux qui n'ont pas fait allemand première langue,
non,
c'est très facile. C'est Kaiser, ce qui est l'empereur, et Berg, la montagne. Donc on est dans la montagne de l'empereur ici, un petit village de 2800 habitants, sur la route des vins, entre la route des vins et la route des crêtes, qui monte un peu plus haut.
C'est ça qui est intéressant ici. D'ailleurs, se concentrer de paysages typiques sur une très courte distance, le mieux est de laisser le chef kaisersbergeois très connu Olivier Nasty décrire ce qu'il voit depuis la cour de son restaurant.
Mmh. On voit la montagne en levant les yeux, on a le château, on a le vignoble. À vrai dire, il y a une culture déjà d'une belle vie. Il y a une culture de l'art, de la gastronomie, du monde du vin. Puis il y a un village qui est très beau. Chaque personne décore sa façade, met des fleurs. Voilà, c'est un petit peu un monde de fées, quoi. Mmh. Et puis après ça, ben, y a beaucoup de liberté dans le vignoble. On peut passer de village, en plein cœur du vignoble. C'est juste très, 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 très beau.
Un concentré de beauté et d'histoire. Hein. Alors, il y a des géraniums, il y a des maisons à colombages. Certaines remontent au XVIe siècle.
Bon, l'idée, Samuel, c'est de nous éloigner de la petite cité.
Oui, perdez-vous dans le vignoble, littéralement. Hein, c'est le conseil de Philippe Blanc, qui est vigneron à Kinsheim, qui fait partie maintenant de la commune de Kaisersberg.
Alors, la première chose que tu dois faire quand tu viens à Kinsheim, on a quand même un paysage de vignes extraordinaire. Tu vas faire une balade dans les vignes, juste au-dessus. C'est magnifique. Ça plonge. Tu vois, quand tu montes juste derrière, là, à la porte des marronniers, tu as une vue, il y a des places pour pique-niquer. Après, tu montes dans le Fürstentum, tu vois jusqu'à la Suisse, tu vois tous les paysages. Tu peux louer des vélos électriques, pas électriques. Puis tous les chemins sont maintenant balisés, sécurisés. Donc il suffit que tu regardes.
Voilà, il tutoie, hein, Philippe Blanc. Oui. Profitez-en pour observer ce vignoble assez atypique parce que les pieds de vigne sont très hauts, jusqu'à 2 mètres en Alsace.
Ah oui.
Et puis vous ne vous perdrez pas complètement. Hein. Les rangs sont très droits. C'est quand même une région bien peignée, hein, l'Alsace, faut dire. Donc visez un clocher pas loin et puis vous retrouverez la civilisation sans aucun problème.
C'était merveilleux. Merci infiniment, Samuel Goldschmidt. On a passé un moment formidable. Dans un instant.